J'ai besoin d'éclaircissement. Il est 8h07, Maxime, depuis ce matin, on parle d'une nouvelle pleine de rebondissements au palais de justice de Chicoutimi, j'imagine?
Oui, exactement, où se déroule le procès de l'ex-militaire Jason Roy-Lagacé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, on était en plein cœur du procès. On était dans le secteur du contre-interrogatoire. Là. Et on a pris une pause et finalement, la plaignante qui était en train de se faire contre-interroger n'est pas revenue après la pause donc au palais de justice. Et là, on s'est posé la question, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le DPCP, suite à ça, a retiré 4 chefs d'accusation donc, auxquels faisait face Jason Roy-Lagacé. On parle d'agression sexuelle causant des lésions, agression sexuelle, harcèlement criminel et méfait. Bref, on voulait savoir, est-ce que c'est quelque chose qui se passe souvent? Pourquoi ça s'est passé comme ça hier? On en parle ce matin avec notre chroniqueur judiciaire, Maître Jean-Marc Fradette.
Bon matin, Jean-Marc, comment est-ce que ça va?
Ça va bien, mon cher.
Là, écoute, il faut qu'on s'éclaircisse un peu cette histoire-là. Écoute, je te contextualise un peu ce que j'ai l'impression que les gens vont pouvoir se dire en prenant leur café un matin. Ils vont lire l'histoire, vont dire la petite fille est en train de s'expliquer, est en contre-interrogatoire. L'avocat, il a dû y rentrer dedans sans bon sens. Écoute, après, elle n'était plus capable de fonctionner. Puis là, on enlève des charges, on enlève des accusations contre l'accusé. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est-tu vrai ce qu'on me dit qu'on vit dans société dans une société de viol ici, là? Qu'est-ce qui se passe? La culture du viol existe-t-elle? Jean-Marc, qu'est-ce qu'on répond à ces gens qui s'emballent ce matin?
Ben, on commence par dire aux gens que, premièrement, devant les tribunaux, devant les juges, on ne peut pas être vexatoire, agressif ou avoir un comportement inacceptable envers des témoins. Donc, les juges ne toléreraient pas ces comportements-là. Donc, ça se passe de façon légale,
ouais.
Et c'est scruté à la loupe par le juge. Donc, rentrer dedans, la réponse est non.
Oui, est-ce qu'on voit dans un film, mettons, là où l'interrogé va se faire rentrer, comme ramasser dedans par un avocat, c'est du cinéma. Non, ce qui se passe dans la réalité, c'est pas ça, là.
Exactement. Non, parce qu'on est régi par des règles déontologiques au barreau et on est régi par les règles des juges. Et il y a une charte des victimes qui existe maintenant depuis plusieurs années sur la façon dont on doit se comporter avec les plaignants. On ne dira pas victimes, parce que ce sont des plaignants. Ils sont des victimes lorsque l'accusé est trouvé coupable.
Oui. Jusqu'à
ce que ce soit terminé, ce sont des plaignants. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut signaler. Deuxièmement, quand un avocat a des arguments, c'est que la plupart du temps, dans ses objectifs, il a certains éléments pour les appuyer, qui, vous l'avez vu, dans l'affaire Gomeshi, entre autres, et on le voit dans plusieurs dossiers, c'est pas parce qu'une plaignante s'est plainte qu'elle dit nécessairement la vérité ou toute la vérité. Donc, l'avocat ne fait que son travail, mettre la plaignante devant ses contradictions. Plus les contradictions sont grandes et évocatrices, probantes, plus ils deviennent difficiles à supporter pour la plaignante. Et le juge, si tout cela est acceptable comme contre-interrogatoire, va laisser aller. Alors, si la plaignante a menti ou s'est contredit beaucoup, c'est le travail de l'avocat de le faire. Et les gens qui nous écoutent doivent savoir que c'est important quand ils sont accusés, que l'avocat de défense puisse contre-interroger, parce que sinon, tout ça serait pris pour du cash. On serait dans une culture de condamnation. Des innocents pourraient trouver coupable. Donc, l'avocat ne fait que son travail et la plaignante n'a qu'à répondre aux questions. Et si les réponses établissent qu'elle ment ou ne dit pas toute la vérité, c'est le travail de l'avocat de le faire. Et le juge veut savoir, de toute façon, si la plaignante dit la vérité. Il ne veut pas trouver coupable quelqu'un qui, par ailleurs, serait innocent. Donc, tout ça se fait dans les normes. Et dans le cas qui nous occupe, le fait que la plaignante a quitté la salle dans les circonstances que vous connaissez, il y a plus de chances que c'est parce que, justement, il y a des choses qu'elle disait qui étaient fausses, qui ont été établies à la satisfaction de la Cour, à un point tel où le juge a laissé aller les choses, et c'est elle qui a décidé de décrocher. Et si elle décroche, on ne doit pas prendre pour acquis que c'est parce que l'accusé était coupable puis que la victime a quitté parce qu'elle en a subi trop.
Mais en plus, on n'était pas là.
On peut plutôt prendre pour acquis que la victime était dans ses petits souliers et qu'elle se faisait mettre vis-à-vis des contradictions tellement évidentes que la preuve ne tenait plus.
Mais Maître Fradette, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit souvent, ça, quelqu'un qui décide de quitter comme ça la salle de cours et de ne pas revenir? Parce qu'à ma connaissance, tout le monde avait l'air surpris hier.
Ça n'arrive pas souvent parce qu'en général, les avocats de défense qu'on fait, on va donner des éléments de défense à la couronne. Je l'ai fait souvent en matière d'agression sexuelle pour établir que s'il y a un procès, moi j'ai ça entre les mains, là, si vous voulez vraiment faire un procès, et voilà ce qui va arriver. Mmh. Et la couronne souvent avoir rencontré la plaignante, il va dire, voilà, j'ai ça que la défense m'a donné. Est-ce que tu es capable de m'expliquer ça? Si la victime n'est pas capable, la plaignante n'est pas capable de l'expliquer, la couronne va dire, ben là, on s'en va dans le but, on va retirer les plaintes. En général, la couronne va retirer les plaintes avant. Dans le cas qui nous occupe, c'est pendant le procès. Ça, c'est plutôt rare parce que ça veut dire que la plaignante a maintenu ses plaintes malgré des discussions qu'elle a eues avec le procureur de la Couronne et la police. Et malheureusement pour elle, ben certains des éléments l'ont probablement choqué à un point qu'elle ne voulait pas revenir.
Ça amène une autre lumière là-dessus et ça change complètement notre perception de la patente.
Oui. Vos auditeurs doivent savoir que les règles actuelles assurent le maintien d'un compte interrogatoire qui peut être serré des fois, oui, bien sûr, mais qui est toujours acceptable, qui est toujours dans les règles de l'art. Il n'y a pas un procureur de la Couronne qui tolérerait qu'un avocat de défense soit agressif ou ne soit inconvenant. Il n'y a pas un juge qui l'autoriserait et notre code de déontologie non plus ne l'autoriserait pas.
Et ça arrive souvent que...
On doit savoir que c'est la norme d'être contre-interrogé quand on est un plaignant.
Et ça peut arriver fréquemment pendant le cours d'un procès qu'on retire une plainte comme ça a été le cas hier?
Avant les procès, en général, oui, ça arrive assez couramment. Mais là, pendant le procès, non, ça, c'est rare.
Ouais, hein?
C'est rare que là, on fait le procès, puis que la plaignante... Il faut savoir que le contre-interrogatoire est nécessaire comme outil. Si la plaignante ne revient pas, l'avocat de défense dit, monsieur le juge, ne pouvant plus continuer à contre-interroger et établir ce que je veux établir, je vais vous demander d'acquitter mon client, parce que là, maintenant, la preuve est incomplète. Le juge est obligé d'acquitter, il n'y a pas le choix.
Maxime, aussi, on a besoin d'éclairage sur un autre dossier au niveau de la consommation de marijuana.
Oui, la culture de cannabis à domicile. Parce que là, pour vous remettre en pendule ce qui s'est passé au cours du début de la semaine, c'est un jugement qui a été rendu par la juge Manon Lavoie qui a statué que les dispositions québécoises visant à interdire la culture de cannabis à domicile étaient inconstitutionnelles car elles empiètent sur les compétences fédérales en matière de droit criminel. Mais là, ce qu'on veut comprendre là-dedans, c'est qu'entre autres, le gouvernement... pourrait peut-être éventuellement aller en appel dans tout ça. Mais entre-temps, Maître Fradette, est-ce qu'on a le droit de faire pousser du pot à la maison?
On sort-tu le pot, là? La ministre nous dit qu'on peut pas, là. Hein?
Oui, mais faut savoir que c'est un juge de la Cour supérieure qui a rendu la décision. Et ça, c'est pas banal. C'est pas un juge de la Cour du Québec de première instance.
Ouais.
C'est un juge de la Cour supérieure. Donc, un juge de la Cour supérieure, c'est un juge de juridiction fédérale.
Mmh.
Et ce juge-là dit que le Québec empiète dans les pouvoirs du fédéral et invalide la partie de loi qui empêche les Québécois de faire pousser du pot. Ça, c'est pas banal. Et oui, je vous dirais que vous pouvez faire pousser du pot. Et actuellement, parce que la partie de la loi est déclarée invalide et tout accusé qui a lu ça est en droit de penser que maintenant il peut, surtout qu'il peut s'appuyer sur le fait qu'en Ontario, ils peuvent le faire et qu'ailleurs, ils peuvent le faire puis que juste au Québec, on ne pouvait pas le faire. Puis il y a un juge qui vient de dire qu'ils peuvent. Oui, ils peuvent ce matin. Évidemment, dans les jours qui viennent, même si vous commencez à faire pousser du pot aujourd'hui et vous avez le droit actuellement, on verra ce que le gouvernement fera.
Okay.
Mais le gouvernement a pris qu'une patate chaude parce que c'est vrai que c'est incohérent. Puis c'est vrai que les citoyens ont le droit à des lois cohérentes.
Mmh.
Et dans ce sens-là, je ne suis pas scrupuleux de vous dire que pour le moment, les citoyens sont libres de le faire et de voir ce qui va arriver dans les mois et les semaines qui vont venir sur les décisions gouvernementales du Québec. Il va devoir réfléchir sur sa position qui est incohérente.
Comment ça se fait que malgré les lois fédérales, le Québec s'essaye, entre guillemets, à se faire ses propres lois?
Ah, parce que le gouvernement Legault avait fait certaines promesses, rappelez-vous.
Hein? C'est vrai.
Les gouvernements ont tendance à se canner dans leurs promesses. On l'a vu avec les garderies à 4 ans. Quand un gouvernement est élu, il se dit, moi, je suis élu sur ce que j'ai dit, je vais donc faire ce que j'ai dit. Des fois, ça n'a plus de sens après et ils ont des difficultés à le réaliser. Ils vont devoir se poser vraiment la question, comment on peut être en Ontario en fait du C4 puis être 100 pieds à côté au Québec, du côté de Hull, puis pour pouvoir en faire pousser.
Ouais. C'est un peu ce qu'on appelle, par exemple, utiliser le test des tribunaux, là, de dire, nous, on a promis ça, on va l'envoyer, on n'aura pas menti à notre promesse, puis voilà. Si ça ne tient pas en route, ben regarde, on changera, là, on n'aura pas le choix.
T'as raison, Simon, les gouvernements ont le droit de s'adapter aux mouvements sociaux et aux jugements. Alors, dans ce sens-là, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est qu'il est possible que les gouvernements y réfléchissent à deux fois avant de contester le jugement.
Jean-Marc, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ces problématiques-là ce matin. On se sent un petit peu plus instruit puis prêt à passer notre journée puis à jaser avec tout le monde au bureau en étant en connaissance de cause. Et d'ailleurs, les gens qui ont trouvé ça éclairant, qui sont pas à l'écoute habituellement lundi à la même heure, lundi 8h05, Jean-Marc Fradette est avec nous pour nous expliquer un peu ce qu'on aurait manqué dans l'actualité judiciaire de la fin de semaine. Merci, Maître Fradette.
Il n'y a pas de quoi. Bonne journée.
Bonne journée.